ce serment ce matin est pour vous, si vous vous sentez vulnérable, si vous avez peur de ce qui peut vous arriver quand vous témoignez avec audace et prenez position pour Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé à Timothée. Nous avons prêché déjà 3 messages sur 2 Timothée où nous faisons des séries de messages et nous arrivons au 4e ce matin. C'est ce qui est arrivé à Timothée, à Éphèse, qui était, à lui a été confié de régler des problèmes dans l'église où il était jeune pasteur et on lui dit tu es jeune, tu ne vaux rien et c'est difficile. Mais n'empêche, il y a aussi de l'enseignement, des faux enseignements qui parcourent où il faut qu'il mette en ordre toutes choses dans l'église. Et il tremblait. Et peut-être c'est pour nous aussi ce message ce matin quand nous tremblons face aux responsabilités où nous ne sommes pas à la hauteur. Et parfois ça nous coûte, ça va nous pousser à payer le prix. Et c'est ce qui s'était passé. Et j'aimerais juste vous rappeler à un homme comme de tel, trempe comme Timothée, qui tremblait, qui avait peur, qui avait honte même, si je peux dire, pour l'évangile, Paul lui conseille quelque chose. Et nous avons vu déjà 8 conseils de l'apôtre Paul à son égard. Je vous rappelle tout simplement ce que nous avons vu, le conseil de Paul pour quelqu'un qui a honte de sa foi, de ce que dira les autres, de ses moqueries. Il lui a donné le conseil, premièrement, rappelez-vous, de ranimer la flamme de notre don spirituel. C'est pour nous aussi. Quand nous avons honte, pour vaincre la tentation d'avoir honte du Seigneur et de sa parole, on devait, selon l'apôtre Paul, ranimer la flamme de notre don spirituel. On l'avait vu au verset 6 du chapitre 1 de 2 Timothée. On avait vu au verset 7, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. On avait vu au verset 7 aussi, Paul disait, il ne faut pas être lâche. Au verset 8, quatrième conseil qu'il lui a donné, d'accepter de souffrir pour l'évangile. Et au verset 9, il lui a encouragé de chérir l'appel céleste qui lui a été adressé, celle de vivre une vie sainte. Nous avons vu le sixième conseil au verset 11 et 12, de ne pas oublier notre tâche. Et septième conseil qu'il lui a prodigué, de compter sur Dieu. Et la dernière fois, nous sommes arrivés au verset 13 et 14 du chapitre 1, de s'attacher à la saine doctrine. Ce matin, nous allons considérer le neuvième conseil de Paul à Timothée, et je dirais pour nous aussi, pour vaincre la tentation d'avoir honte du Seigneur et de sa parole. Et ceci se trouve maintenant dans 2 Timothée chapitre 1, versets 15 à 18. Ouvrez votre Bible, gardez-le ouvert, parce que nous allons regarder l'enseignement qui est donné dans ce passage, dans ce neuvième conseil. Verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au verset 17, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Et au verset 18, que le Seigneur lui donne de tenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais, mieux que personne, combien de services il m'a rendu à Éphèse. En passant, je veux intituler ce serment « Sachez bien choisir vos amis. Sachez bien choisir vos amis. Une réalité qu'on peut facilement constater dans le monde autour de nous, et ceci depuis toujours, est que les gens qui se rassemblent se ressemblent. Et cette réalité peut être bonne ou mauvaise, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul, là, nous le rappelle, cette vérité, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul clarifie ici que si vous fréquentez la mauvaise compagnie, elle vous corrompra. J'aimerais ce que disait cette personne à ce sujet. Introduisez-moi auprès de vos amis les plus proches et j'en apprendrai beaucoup sur vous. Juste en apprenant à connaître ceux ou celles que vous fréquentez régulièrement. Et le psalmiste dit la même chose et nous encourage à faire le bon choix de nos amis, ceux qui nous fréquentons souvent. Le psaume 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » C'est un choix qu'il a fait. « Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Cet homme-là, il est heureux. Vous voyez, les choix de nos fréquentations, de trier nos fréquentations, de cela en dépend notre état d'être, notre bien-être heureux. Revenons à notre passage de 2 Timothée 1, 15 à 18. Ici, Paul instruit Timothée à ce sujet, non pas par un commandement. Vous voyez, là, il change de stratégie, Paul. D'habitude, il donne des exhortations claires à faire. Mais ici, ce n'est pas le cas, mais plutôt il a recours par son exemple personnel. Paul fait appel au pouvoir, je dirais, des exemples humains, négativement et positivement, dans le but de stimuler Timothée à ne pas avoir honte de sa foi. Nous allons voir dans ce passage, il lui rappelle l'exemple négatif des chrétiens d'Asie et de deux personnages que nous venons de voir, Phygèle et Hermogène, et en contraste, il va mettre en valeur l'exemple positif d'Onicéphore. C'est ce que nous allons voir. Donc, sans tarder, nous allons voir l'exemple de mauvaise compagnie et suivant l'exemple de bonne compagnie. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Car quand il dit « tu sais », Paul indique que cet exemple négatif est connu de Timothée. On aurait pu penser que ça aurait pu être une raison supplémentaire d'abattement pour Timothée, mais Paul cite cet exemple car il veut tirer une force constructive dans ce qui se passe. L'exemple de ces hommes sera un stimulant à ne pas agir comme eux. Ça, c'est l'objectif de l'apôtre Paul, et non pas décourager Timothée. Le fait est impressionnant. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ceux dont il était question étaient ceux qui étaient en Asie. L'Asie, c'est la province romaine, ici, d'Asie, c'est en Éphèse. Et Timothée est pasteur à Éphèse, n'est-ce pas? Donc, il résidait bien en Asie, il connaît ce fait. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Donc, c'est un abandon personnel. Et ce qui est terrible, c'est au moment où ils auraient dû faire preuve d'amitié, et c'est à ce moment qu'ils se sont détournés de l'apôtre Paul. Je dirais dans un moment de sa vie où il aurait eu le plus grand besoin d'amour et de support de ses amis, l'apôtre Paul a littéralement été abandonné par ses compagnons dans l'œuvre de l'Évangile. Si nous lisons bien le passage, ça sous-entend par derrière qu'il semble que Paul avait écrit à Éphèse pour demander à des hommes qui le connaissaient de longue date et qui étaient parfaitement au courant de ses activités, de son enseignement, de venir à Rome témoigner en sa faveur. Mais la situation apparemment désespérée de Paul et la crainte de s'exposer à des conséquences fâcheuses les avaient tous rendus sourds à son appel. Ce qui est frappant, c'est que parmi ceux qui s'étaient dérobés, Paul, pour une raison qu'on ne sait pas, cite deux personnes, Phygèle et Hermogène. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament qu'apparaissent ces deux personnes. Et on ne sait rien d'autre à leur sujet. Dans les circonstances que je viens de vous évoquer, Phygèle et Hermogène, quel portrait le Saint-Esprit nous donne d'eux? C'est des déserteurs. Au moment où il en a besoin plus d'eux, ils n'étaient pas là. Quelle honte pour eux. Je dirais, ils ont déserté le plus grand missionnaire chrétien que ce monde ait jamais connu, l'apôtre Paul. La question, pour quelle raison? J'ai déjà évoqué un tout petit peu, mais pour comprendre, il faut se rappeler que c'était une époque dans l'Empire romain où c'était difficile de s'afficher comme chrétien. C'est dans cette époque, dans ces circonstances-là, et le christianisme était déclaré comme une religion illégale, illicite. Et donc, c'est pour cette même raison que Paul écrit sa lettre dans le fond d'une prison, enchaîné comme un criminel. Et nous l'avons dit tout au début, hein, pour présenter le contexte de l'épître de Timothée, que l'apôtre Paul est sous une sentence de mort. Alors, de peur d'être trouvé coupable par association, ridiculisé et humilié par les Romains, il me semble que ces deux hommes ont choisi l'option la plus sage, populairement, de déserter, de sauver sa vie, leur vie, sauver leur peau, comme on dit. Je me regarde, je observe l'état de mon cœur. Dans de telles situations, suis-je capable d'aller être au secours de mon ami qui est en danger à cause de sa foi? Sur la balance, ma vie aussi prend un grand risque. C'est ce qui a découragé Phygèle et Hermogène. Et ce matin, ici, parmi les auditeurs qui sont assis ici, je dirais, peut-être ferait probablement le même choix que Phygèle et Hermogène si on se retrouverait dans des circonstances semblables, sauver sa peau. Et ça, c'est la vraie grande question. Si la persécution s'abat sur l'Église du Seigneur, est-ce que nous prenons comme priorité de sauver notre peau et d'abandonner ceux qui vont aller jusqu'au bout pour le témoignage du Seigneur? C'est une vraie question. Ne croyez pas que ça ne puisse jamais arriver. Ça, c'est la vraie grande question que pose ce texte. Sauver sa peau, est-ce raisonnable? Je vais vous donner juste deux passages qui nous amènent à réfléchir. Ne pas jeter les pierres à Phygèle et Hermogène qui abandonnaient l'apôtre Paul, sachant que ça va leur coûter beaucoup d'être à côté de l'apôtre Paul, qui est jugé, condamné à cause de sa décision de prendre position pour Jésus-Christ. On ne jette pas la pierre à Phygèle et Hermogène, mais il y a deux principes dans deux passages qui nous indiquent comment faire le meilleur choix si un jour ça va nous arriver. Que cette question va se poser devant nous. Je vous invite à regarder Marc chapitre 8, verset 34 à 35 et verset 38. C'est Jésus qui parle ici. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Un peu plus loin. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous savez ce qui s'était passé? Dans quel contexte Jésus parlait de cela et à qui il s'adressait? Il s'adressait d'abord à ses disciples en intimité. Et comme la foule n'est pas loin, sachant que Jésus est dans le coin, eh bien Jésus va demander maintenant aux gens, une fois qu'il a parlé à ses disciples, de prix à payer pour le suivre. Il va appeler les gens maintenant de s'approcher de lui pour leur enseigner ce qu'il vient de dire à ses propres disciples, à savoir, il y a un prix à payer pour être un véritable disciple. Il savait qu'il y a des gens qui n'étaient pas disposés à payer le prix exigé pour être d'authentiques disciples, mais le suivaient tout simplement à cause de ses miracles, à cause de ces quelque chose de phénomène extraordinaire que Jésus faisait. Et là, il va leur dire ouvertement, sans cacher, la condition principale pour être de véritables disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, je dirais plus que renoncer à certaines choses, ou renoncer à certaines activités. Ce n'est pas de cela dont on parle ici. C'est se livrer soi-même à Christ et décider de suivre sa volonté. Ça, c'est ce qui est enseigné ici. Cette consécration est suivie d'une mort à soi-même quotidiennement et qui consiste à prendre la croix et à le suivre. C'est de cela dont il s'agit. J'aimerais juste parler ici quelque chose qu'il ne faut pas oublier, que Jésus s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à des gens qui ont cru déjà en lui et qui ont déjà pris position pour lui. Et c'est à ces disciples-là qu'il est en train de dire ce qu'il est en, que nous lisons ici. Donc, à des hommes qu'il avait déjà confessés comme le Fils de Dieu. Donc, comprenons bien ce qu'il est en train de dire. Jésus ne leur enseigne pas comment être sauvé et aller au ciel. Ce n'est pas ça qu'il parle ici. Quand il parle sauver sa vie, ici. Parce que c'est des gens qui ont déjà pris position concernant le salut, ça c'est réglé. Mais ce qu'enseigne Jésus, et ça c'est important pour nous aujourd'hui, comment sauver leur vie dans le sens de tirer meilleure partie des occasions qui leur est offerte sur la terre. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que Jésus est en train de mettre les points sur les i. C'est pas comment être sauvé et aller au ciel, mais comment sauver sa vie dans le sens de tirer meilleure partie des occasions qui nous sont offertes sur la terre pour la cause de Jésus. C'est-à-dire, ici l'occasion que Jésus présente dans un contexte de rejet, dans un contexte d'opposition de la part des générations adultères et pécheresses, est-ce que nous sommes prêts à prendre position pour lui? C'est ça la clé ici. Et quand il dit perdre son âme, ça ne veut pas dire perdre son salut. Dans ce contexte que je viens de vous décrire, perdre son âme équivaut à gaspiller sa vie, à manquer les grandes occasions que Dieu nous donne pour que nous ayons une vie qui compte pour Dieu. C'est ça le message. Et ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Vous savez, peut-être vous avez des succès aux yeux des hommes, aux yeux du monde, mais vous n'avez rien à présenter à Dieu pour votre vie lorsque vous vous tiendrez devant lui. Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Amasser les trésors? Amasser tout pour que la lumière se projette et dire « il a réussi ». Ou quelqu'un qui veut faire le choix de dire « je veux amasser des trésors dans le ciel ». Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est de la valeur pour vous? La question est cela. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la houille détruisent et où les voleurs passent et dérobent, dit Jésus, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la houille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. La question ici, c'est acceptez-vous de payer le prix du rejet, de l'opposition, pour s'afficher en tant que disciple de Jésus et ne pas avoir honte de lui? Ça, c'est la vraie question que Jésus pose. C'est sérieux. C'est sérieux. Ça, c'est à mettre sur la balance. Sauf qui peut. Ou suivre l'enseignement de Jésus, prêt à aller jusqu'au bout, s'il faut payer très cher. Deuxième passage, pour ne pas jeter l'opprobre sur Figel et Hermogène, si nous serons dans un jour dans cette même situation, je cite Hébreux chapitre 10, verset 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. L'auteur s'adresse à qui? Il s'adresse à des Hébreux, des Juifs, qui étaient devenus chrétiens. Mais dans le contexte de persécution, ils commencent à faire marche arrière. Non, j'ai fait erreur de choisir la vie en tant que croyant, suivre Jésus. Et alors, quel est le moyen pour échapper? Revenons en arrière vers le judaïsme dans lequel ils étaient depuis toujours. Et c'est à des gens dans cette condition, à cause des persécutions, parce que le christianisme n'est pas reconnu comme religion légale, sont persécutés. Et la tendance est de dire non, je veux reculer, je veux revenir là où j'étais avant, pour le confort. Et donc, retourner au judaïsme qu'ils avaient quitté et retourner au temple, se joindre à nouveau à ceux qui suivent toujours des sacrifices lévitiques. Et c'est pour les encourager, ces personnes-là, que l'auteur leur rappelle le chemin qu'ils ont déjà parcouru. Souvenez-vous de ce premier jour. L'auteur les encourage en leur rappelant le chemin qu'ils ont déjà parcouru, le courage qu'ils ont manifesté dans les tribulations passées et les récompenses qu'ils recevront quand ils auront surmonté toutes leurs épreuves. Il dit, souvenez-vous, ou dans d'autres traductions, rappelez-vous. Le mot grec ici signifie repenser attentivement, repasser en soi-même les événements du passé. Vous savez, on doit toujours apprendre du passé, de l'histoire. N'est-ce pas? L'auteur dit quelque chose de ce genre, après avoir déjà tant souffert pour le nom de Jésus, ce serait une tragédie si vous abandonnez maintenant. Alors, allez de l'avant. Ça, c'est le message de l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour ces chrétiens qui veulent quitter le christianisme pour revenir en arrière dans le judaïsme. Et regardez ce qu'ils avaient fait avant. L'auteur leur rappelle que vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, ce que dit Jésus. Des trésors sur la terre ou amasser des trésors dans le ciel. Vous savez, c'est pas rien de tout perdre, n'est-ce pas? Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, Et pour comprendre cela, il faut, suffit de regarder l'histoire de la persécution de ces premiers chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres. Et en regardant ce qui s'était passé, regardez ce qui s'était passé pour Étienne, le martyr d'Étienne. Regardez juste Actes chapitre 5 avant, les persécutions qu'ils ont subies. Et ça peut nous donner une idée des persécutions qu'ont duré les contemporains juifs des apôtres. Et rapprochons un peu leur réalité de notre réalité aujourd'hui en 2023. De nos jours, hein, en Iran par exemple, le pouvoir religieux se confondait avec le pouvoir civil. N'est-ce pas? En Afghanistan, c'est la loi islamique qui régit le pays. Et je peux en citer beaucoup. Par exemple, la Corée du Nord, en 2022, est placée par portes ouvertes comme le pays le plus féroce et le plus cruel pour la persécution des chrétiens dans le monde, la Corée du Nord. Vous savez, dans ces pays-là, le pouvoir a toute la facilité pour détruire ce qui lui apparaissait comme une secte pernicieuse et pour chasser ce qu'il considérait comme hérétique. Et alors, pourquoi pas s'en priver pour spolier les biens, les richesses de ces personnes. Là, c'est ce qu'ont accepté ces juifs quand ils sont venus en Jésus-Christ. De s'associer, s'identifier à ceux qui étaient persécutés pour leur foi, et accepter même d'être spoliés de tout ce qu'ils possédaient. Ils ont tout perdu. Au lieu de jeter la pierre à Figel et Hermogène, hein, demandons-nous un peu, nous en Occident qui sommes tellement attachés et nous attachons d'importance à notre confort matériel, je suis le premier. Nous qui sommes préoccupés tellement de ne manquer de rien pour les jours à venir, demandons-nous si nous accepterons avec joie qu'on nous spolie de ce que nous possédons. Êtes-vous prêts? Ça, c'est la question posée par notre passage. Mettez sur la balance. Regardez votre cœur. Sauver sa peau, comme Figel et Hermogène, ou est-ce que accepter, comme ces Hébreux, qui sont maintenant encouragés de dire, c'était pas la bonne choix, le bon choix que vous avez fait, mais revenez maintenant sur la bonne voie de suivre Jésus. Vous avez déjà fait beaucoup en acceptant tout de tout perdre, et bien maintenant continuez. Ça, c'est le message. Sommes-nous prêts à subir les pertes s'il nous faut pour suivre Jésus-Christ et ne pas avoir honte de lui? Ou faire comme Figel et Hermogène, sauver sa peau? Comme je viens de vous le dire, ne croyez pas que ça c'est loin de nous. Ne le croyez pas. Préparons nos cœurs. Ça peut arriver d'un jour au lendemain. Ça, c'est l'exemple pour les mauvaises compagnies. Mais Paul finit à donner le bon exemple d'une bonne compagnie maintenant. Et nous sommes arrivés maintenant à Onisiphore. Notez bien le caractère de cet homme de Dieu nommé Onisiphore. Il y a quelques points positifs qui nous seraient utiles et à imiter dans la vie de cet homme, dans les circonstances dans lesquelles il se trouve par rapport à l'apôtre Paul qui est en prison et qui attend la peine capitale pour l'issue de son procès. D'abord, je remarque qu'il n'avait point honte de l'emprisonnement de Paul. Que le Seigneur réponde sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a point honte de l'emprisonnement de Paul. Voilà, je dirais, un homme qui a ses priorités spirituelles en ligne, n'est-ce pas? Il n'a pas méprisé Paul pour le fait qu'il était emprisonné à cause de l'Évangile, n'est-ce pas? Il était plutôt en admiration de lui. Il l'a honoré pour sa dévotion sans compromis envers Dieu. cet homme aimait Dieu plus que sa propre vie et le monde, n'est-ce pas? Il n'était pas dupe. Il savait qu'en visitant Paul, il risquait sa propre vie en tant que disciple dans une religion déclarée illégale à cette époque. Mais cela ne l'a pas empêché de démontrer son amour pour un frère dans l'épreuve. J'aimerais juste vous dire que son nom veut dire, onicéphore, veut dire serviable. Celui qui porte utilité. Son acte, ce qu'il a fait, justifie et je dirais démontre exactement son nom. Il est tel que son nom, n'est-ce pas? Aller ainsi se mettre au service de Paul dans sa prison impliquait des dépenses. Il parle d'Éphèse pour aller à Rome. Impliquait des dépenses, impliquait des efforts, impliquait des risques personnels et des risques pour toute la famille aussi. N'est-ce pas? J'aimerais attirer votre attention sur le petit « car il m'a souvent consolé ». Le « car » qui vient ensuite dans ce verset 16 montre que Paul était conscient ce qui lui fait invoquer sur la famille d'Onésiphore la miséricorde de Dieu. Il était conscient, il était reconnaissant de tout l'effort qu'a fait cet homme. Pas comme les autres qui ont tous été sourds à l'appel de Paul, mais lui, il a répondu. Il a pris position, malgré tous les risques qu'il prenait, pour lui-même, pour l'Église et pour sa famille même. Et Paul, étant reconnaissant que la miséricorde de Dieu soit sur la maison, sur la famille d'Onésiphore. Je vois deuxième chose, il est un encouragement pour l'apôtre Paul. Il est dit, il m'a souvent consolé. Oh, j'aime bien d'avoir dans l'Église des hommes, des femmes qui sont des consolateurs. Qui fait ce que le Saint-Esprit fait chaque jour pour nous. Il nous console, il est le consolateur. Et ici, on dit qu'Onésiphore a souvent consolé Paul. Vous savez, lorsqu'on est persécuté, mis à part à cause de notre foi en Christ, la dernière chose qu'on a besoin, c'est un support moral, un support spirituel, et je dirais de présence physique. Et c'est ce que Onésiphore a été envers Paul. Comme je viens de le dire, il a été pour Paul ce que le Saint-Esprit fait tous les jours pour nous en tant que le consolateur, le paraclet, qui vienne à côté de soi quand on a besoin de l'aide. Mais le consolateur est aussi le paraclet qui est à côté de soi pour nous consoler. Troisième chose que je note, il s'est dérangé pour voir Paul. Il est dit au verset 17, « Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. » Apparemment, il n'était pas difficile, il n'était pas facile à trouver où est-ce qu'il se trouvait ce prisonnier d'exception, l'apôtre Paul. Je vois cet homme comme un excellent exemple réel de vraie miséricorde et d'amour agapé, n'est-ce pas? C'est ça le genre d'ami que nous devions désirer avoir comme ami dans notre vie, n'est-ce pas? C'est le genre d'ami qui nous donnera le bon élan dans notre vie chrétienne. C'est ça qu'on a besoin. Il n'a pas seulement parlé de son amour pour les frères, il l'a démontré dans ses actes, n'est-ce pas? Il n'a pas seulement eu une piété pieuse pour Paul, mais il l'a démontré dans son amour pour Paul. Il s'est mis, je dirais, dans les sandales de Paul, là, et a fait pour Paul ce qu'il aurait désiré qu'on fasse pour lui si un jour ils seraient, se retrouveraient dans les mêmes circonstances. Nous aimerions bien avoir des amis comme ça, n'est-ce pas? La seule façon d'en avoir des amis comme ça, c'est d'en être un nous-mêmes. La seule façon d'en avoir des amis comme ça, c'est d'en être un nous-mêmes. Parce que ça devient rare, on compte des doigts des vrais amis comme ça. Cherchez la compagnie de croyants et cherchons les compagnies des croyants qui sont consacrés à fond pour le Seigneur. Ça, faut le désirer. Les croyants qui n'ont aucune honte pour le Seigneur et sa parole, quoi qu'il arrive. Et oui, parce que c'est ce que nous devrions tous être. Sachez que si, quand vous êtes dans l'Église, vous êtes une influence pour les autres, en bien comme en mal. Et pourquoi ne pas profiter d'être un bon exemple pour les autres dans votre prise de position pour Jésus-Christ. Le jour arrivera, le test va être devant nous. Sauf qui peut, si l'église de Pessac subira une persécution ou aller jusqu'au bout. C'est une disposition pour le témoignage de Christ. C'est une vraie question. Oui, je termine ce message en disant ceci, n'ayons pas honte de Christ. Nous n'ayons pas honte de la foi chrétienne. Et je sais, quand je regarde mon cœur, que ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas toujours facile. Le monde incrédule, je dirais le diable et sa troupe infernale tentent de nous accabler de honte. Mais nous ne laissons pas écraser. Je dirais le pire affaire serait de nous arrêter dans notre course comme faisaient ces chrétiens ou l'auteur de les Épîtres aux Hébreux, leur relance à nouveau de faire marche arrière. De prêter attention à cette foule incrédule et de nous abandonner au découragement. Imitant Onésiphore pour son amitié véritable pour Paul qui se démontre dans les moments difficiles. Retenez Proverbe 17. Il l'a mis en action dans sa propre vie, ce que nous enseigne la sagesse dans les Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Notez, je n'ai pas mis sur le passage, et ça c'est la réalité que vous pouvez voir. Est-ce que lui, elle, est-ce que c'est un vrai ami? Vous savez, il y a des amis qu'on dit des beaux jours, ils sont nombreux. Et Proverbe nous le donne, que ça existe, il ne faut pas être dupe. Proverbe 14, 20, je vous laisse lire chez vous. Proverbe 19, verset 4, verset 6, verset 7. Oui, les amis des beaux jours, ce ne sont pas les vrais amis. Les vrais amis, c'est que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, il aime en tout temps. Et surtout au moment où on a besoin de lui, il est là. J'aimerais, Seigneur, être comme ça. Sincèrement, devant. Seigneur, j'aimerais être comme ça. Que quoi qu'il en coûte, le risque que je peux prendre en aidant un frère ou une sœur à cause de ce qui lui arrive, à cause de la prise de position pour sa foi, suis-je là ou suis-je absent, sauver ma peau? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Comment devenir l'ami de quelqu'un? Ça, c'est la vraie question, parce que c'est ça qui nous bloque par ailleurs aussi. Comment devenir l'ami de quelqu'un? C'est en cessant d'être égoïste. Parce que le fond est là. Sauver sa peau, c'est moi qui passe avant. En cessant d'être égoïste, comme Jésus le rappelle, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, le mot ami, le mot amitié viennent tous du mot amour, n'est-ce pas? Amitié, ami, viennent du mot amour. Et la Bible parle d'un amour qui se sacrifie un amour qui est prêt à payer les prix. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Et c'est sur l'amour dont Christ a témoigné en notre faveur. Même nous étions encore ennemis de Dieu, il a démontré qu'il nous aime. Vous savez comment Jésus nous l'a démontré? L'apôtre Paul nous le dit en Romains 5, verset 8, n'est-ce pas? Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous quand nous étions encore ses ennemis. Et cet amour agapé, c'est un amour désintéressé. C'est un amour inconditionnel. Il ne dépend pas de l'objet à aimer. Et c'est un amour qui donne tout sans rien attendre en retour. Et c'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour le bien de l'autre. Et non pas comme Phygène et Hermogène. Un amour égoïste. Chers frères et sœurs, imitons, suivant l'exemple donné si fort, la vraie amitié que nous devions être pour nos frères et sœurs en Christ. Prions. Père, nous te remercions de ce passage, parce que ça nous donne à nous impliquer dans le regard vis-à-vis de notre cœur, vis-à-vis de l'amour, l'amitié que nous avons pour nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont dans des conditions difficiles, comme l'a été Paul ici. Ils étaient là, c'est des véritables chrétiens, ils n'ont pas répondu. Il y a un seul qui a été levé, et l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous montre ces exemples pour que nous puissions suivre l'exemple donné si fort. Père, nous ne savons pas ce que tu prévois. Ton plan est en route dans ce monde et pour ce monde qui va être amené en jugement, mais avant cela, ça nous amène à réfléchir sur la persécution, sur l'isolement, sur tout ce qui peut nous priver de beaucoup de choses, de notre liberté, de notre foi, des conséquences d'avoir choisi de vivre pour Jésus-Christ. Et je prie pour chacun de nous de regarder, de nous examiner, de considérer ces choses. Ça peut arriver, comme je dis, à tout moment. C'est pas loin de nous. C'est pas loin de nous. C'est pas qu'en Afghanistan, c'est pas qu'en Iran, c'est pas qu'en Corée du Nord, c'est pas dans ces pays, dans les États islamiques. Ça peut arriver même ici en Occident. Et merci Père de nous préparer. Merci Père de nous donner le courage. C'est ce dont nous avons besoin. Et nos prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous, ont suivi ce chemin. Ils ont pris position pour Jésus-Christ. Même torturés, même sciés dans les bois, même brûlés au feu. Ils n'ont pas renié le Seigneur. Aide-nous à faire de même pour Jésus-Christ. Amen.